1 Samuel, chapitre 16, verset 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. » Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. » L'un des serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer, un guerrier parlant, c'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. » Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, « Envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. » Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, « Je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. » Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Un temps s'est passé depuis le moment, le jour de ce repas sacrificiel au cours duquel le prophète Samuel avait oint le jeune David. La Bible souvent saute d'un moment, d'un temps à l'autre, d'un moment à l'autre, sans nous donner des références de temps. Mais cela n'a pas d'importance. L'Esprit de Dieu qui inspire l'Écriture nous donne les éléments qui nous sont nécessaires sans aucun enrichissement accessoire. Un certain temps s'est donc passé. Et voici le jeune David à qui tout réussit parce que l'Éternel est avec lui. Tout lui réussit car l'Éternel est avec lui. Ah, c'est une chose que nous retrouvons dans bien d'autres circonstances. Il y avait par exemple Joseph, le jeune Joseph, qui partout où il allait, apportait avec lui le succès, la réussite, parce que la main de l'Éternel était sur lui. Je ne sais pas si nous devons nous en tirer tout de suite une leçon toute simple, toute directe. Si la main de l'Éternel est sur nous, avec nous, n'allons-nous pas faire des choses bonnes, des choses qui vont réussir? Mais c'est certain, si l'Éternel est avec nous, nous ne manquerons pas, nous aussi, n'est-ce pas, de voir autour de nous l'œuvre de l'Éternel se faire. Notre succès sera ça. Notre prospérité, c'est ça. N'est-ce pas? Notre prospérité, aujourd'hui, c'est de voir l'œuvre de l'Éternel se faire autour de nous. Apportons, n'est-ce pas, cette richesse, ce rayonnement de l'Esprit et de l'amour de Dieu autour de nous et tout sera bien. Mais nous allons voir, il y a une condition. Il y a quelque chose de central. Et déjà, Jean nous le dit dans sa première épître, c'est de marcher dans la lumière. Si nous marchons dans la lumière, nous sommes en communion avec lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Marcher dans la lumière, c'est l'obéissance qui est à la clé de tout, n'est-ce pas? Lorsque nous sommes dans l'obéissance simple, humble, avec un cœur droit et humble, et que nous nous y tenions, alors il est certain que l'Esprit du Seigneur est avec nous. bien des personnes se plaignent aujourd'hui de ne pas avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, bien qu'étant membre de l'Église. Je ne veux pas les décourager, loin de là. Je ne veux pas faire porter un fardeau, comme a dit le Seigneur Jésus, je ne vous donne pas d'autres fardeaux, d'autres charges que... Non, il ne s'agit pas de leur faire porter un nouveau fardeau. Mais, chers amis, il faut qu'ils aient la sagesse, la foi, la sagesse de reconsidérer leur marche, de reconsidérer leur position dans l'Église, leur position à l'égard de la parole de Dieu. Et là, ils auront certainement des choses à remarquer. Et lorsqu'ils auront vu cela, qu'ils se seront placés dans la prière, eh bien, Dieu, qui est fidèle, ne leur donnera-t-il pas l'Esprit s'ils le demandent ? Il le leur donnera certainement. Et voici donc le jeune David, déjà en pleine montée vers une carrière, qu'une carrière de serviteur de l'Éternel, que l'Esprit de Dieu lui ouvre. Et puis, en même temps, nous voyons Saül en pleine déchéance. L'un est en train de monter, l'autre est précipité. Il descend, il est en pleine déchéance parce que l'Éternel s'est retiré de lui. David, à ce moment, n'a pas encore eu les occasions de manifester sa fidélité. Nous savons que c'est la caractéristique de cet auxiliaire de Dieu, un homme qui accomplira toutes mes volontés, un homme selon le cœur de Dieu, qui accomplira toutes mes volontés. Par conséquent, David aura cette faculté spirituelle et cette ténacité de rester dans l'obéissance à la pensée de Dieu, à la volonté de Dieu. C'est ce qui fera que Dieu le bénira et se servira de lui pour une très grande œuvre. Alors, David n'a pas encore eu les occasions de manifester sa fidélité, mais l'infidélité de Saül, par contre, a déjà déterminé son rejet. Mes amis, réfléchissons à cela, ne faisons pas de généralisation hâtive, mais réfléchissons à ça. Voilà un homme qui monte, en voilà un autre qui descend. L'Esprit de l'Éternel lui est donné, l'autre, l'Esprit de l'Éternel lui est retiré. Pensons-nous qu'il puisse y avoir de semblables choses? Maintenant, il y a certainement leçon à tirer de ça, sans faire, je vous dis, n'est-ce pas, de rapprochement ou de généralisation hâtive. Il faut se méfier des généralisations, parce que l'œuvre de Dieu est infiniment diverse. Elle procède de principes, elle procède de pensées que nous n'avons pas, dont nous n'avons pas toujours suffisamment la possession, la connaissance. Alors, ne généralisons pas. On fait souvent, on arrive à de fausses conclusions par des généralisations hâtives ou précipitées ou qui n'ont pas lieu d'être. La vie de l'enfant de Dieu est plutôt en voie de dépérir, ça ne va plus, il n'y a plus les exaucements précédents, et l'on se plaint, n'est-ce pas? Et même l'épreuve survient. Et puis il y en a d'autres qui sont en plein boum, comme on pourrait dire, n'est-ce pas? Parce que là, ils sont fervents, ils sont violents dans la foi, hardis. Et ils se saisissent de la parole de l'Éternel pour perdre leur vie, pour donner, abandonner leur vie à Dieu. Alors voilà que l'œuvre de l'Éternel est entre leurs mains. Nous avons ici, dans ce passage que nous avons lu, deux oints. Ils sont oints tous les deux, et ces deux oints se trouvent confrontés. Ils vont bien vite, d'ailleurs, être opposés l'un à l'autre du seul fait de l'infidèle, de l'infidélité de Saül. Ils vont bien vite être opposés l'un à l'autre. C'est la volonté de Dieu qui les met l'un devant l'autre, puisque le Seigneur a dirigé cette confrontation. Nous voyons que les événements, n'est-ce pas, tournent bien vite pour cela, et il est très clair que Dieu conduit cela, Dieu a préparé cela. On désigne à Saül un bethléémite dont le jeune fils connaît bien la musique. Qu'est-ce qui a donné ce don à David? C'est bien l'Éternel. Et justement, le roi Saül en était informé, il fait venir David, et voici qu'en effet, le jeu de harpe de David soulage le roi Saül de cette oppression qu'il subit du fait d'un mauvais esprit. Tout cela a été conduit par Dieu. Donc, c'est la volonté de Dieu que les deux oint, et je le répète, ils sont oints tous les deux. Saül va rester oint, ça ne peut pas se retirer, ça. Il va rester oint jusqu'à la fin. Nous verrons d'ailleurs comment David respectera loin de l'Éternel. Ils se trouvent donc l'un devant l'autre, confrontés l'un à l'autre. Eh bien, je dis cela parce que sur la terre, l'Esprit de Dieu et l'Esprit de l'Antichrist sont en confrontation et en opposition. Ils ne se fuient pas. Ils sont en présence, mais l'un d'eux agit selon le mal, l'esprit de l'Antichrist, tandis que l'autre agit en suivant l'Esprit de Dieu, en combattant par l'Esprit de Dieu, par des armes qui sont spirituelles, uniquement spirituelles. Mais Dieu n'a pas entendu sur la terre, maintenant séparé, son esprit et l'Église qui a son esprit de ces hommes qui ont l'esprit de l'Antichrist et qui se font les auxiliaires de Satan. Il n'a pas entendu les séparer sur la terre. Ils sont séparés dans un sens, oui, c'est qu'ils n'ont rien de commun, n'est-ce pas, entre eux. Ils sont même, disons, opposés l'un à l'autre, mais Dieu ne les a pas séparés et les laisse ensemble sur la terre. L'élection de Dieu est un mystère caché. C'est une élection selon la grâce. Et dans cette confrontation de Saül et de David, nous retrouvons la lutte d'Ésaü. Ésaü, connaissez ce nom? Ésaü contre Jacob, ou plutôt, si vous voulez, en parcourant les âges, la lutte d'Édom, le peuple issu d'Ésaü, contre Israël, le peuple issu de Jacob. Le prophète Abdias nous montre cette lutte. Et cependant, Dieu n'a pas écrasé trop tôt, avant l'heure, ce peuple d'Édom, il l'a laissé. Aujourd'hui encore, de notre temps, n'est-ce pas, en nous replaçant, si vous voulez, un peu dans l'optique de l'ancienne alliance, puisqu'il y a à nouveau une nation d'Israël, nous pouvons dire, n'est-ce pas, que Israël a retrouvé encore ses anciens ennemis tout autour de lui. Il est ceinturé par ceux, n'est-ce pas, qui veulent l'anéantir, le dévorer, le supprimer. Eh bien, Dieu le permet et va le permettre jusqu'au moment où tout va se régler. Nous savons que tout comme Saül, le roi Saül, Ésaü, le fils aîné d'Isaac, Ésaü est rejeté. Il était rejeté lui aussi. Et dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, il nous est même dit que son repentir ne put avoir aucun effet. Son repentir ne put avoir aucun effet. J'aimerais, à ce sujet, et puisque nous pouvons faire un rapprochement entre la confrontation de Saül et de David et celle d'Ésaü et de Jacob, j'aimerais vous montrer qu'il y a là une sorte de condition perpétuelle, tant que nous ne sommes pas arrivés à la conclusion de toutes choses, à la consommation des siècles. Il y a là une condition perpétuelle de cette lutte des ténèbres contre la lumière et de cette lutte, disons, de la lumière contre les ténèbres. Vous connaissez, vous savez ce qui est arrivé, n'est-ce pas, à ces chefs des deux peuples, Ésaü et Jacob. L'histoire du droit d'aînesse, n'est-ce pas, les promesses données à Abraham, et puis Isaac étant héritier des promesses faites à Abraham, les promesses lui sont répétées, et après Isaac, il devait y avoir un chaînon qui allait hériter aussi des promesses, et ce chaînon, c'était l'aîné, celui qui avait le droit d'aînesse, Ésaü. Mais Ésaü vend ce droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Et nous pouvons dire que cet homme avait fait le calcul des incrédules. Il avait faim, il était fatigué, et arrivant à la tente de sa famille, où se tenaient sa famille et son frère Jacob, qui lui était toujours sous les tentes, il hume un fumet qui le met en appétit, en grand appétit. Et vous savez comment, devant la proposition de son frère Jacob, il lui vend son droit d'aînesse, c'est-à-dire qu'il lui vend véritablement les promesses, toutes les promesses de Dieu dont il devait être, lui, le porteur, l'héritier, il était le chaînon qui suivait celui d'Isaac, son père, n'est-ce pas? Eh bien, tout cela, il le donne. Et la philosophie de cet acte est celle-ci. Ce qu'on peut manger et boire, c'est immédiat. Alors, Ésaü saisit ce qui est passager, ce qui est petit, ce qui est limité à sa personne, ce qui se situe par contre au-delà de sa propre existence terrestre, ça ne l'intéresse pas, ça l'indiffère. Les promesses faites à Abraham, son grand-père, renouvelées à Isaac, ces promesses, elles contiennent des choses mystérieuses, elles contenaient, chers amis, toute l'Église. Elle contenait toute l'œuvre de Dieu, elle contenait le royaume de Dieu. Elle le contient toujours. C'est ça. Et alors, ça ne l'intéresse pas. Il voit toute chose avec sa raison d'homme. Et il dit, oh, je vais mourir. Mais dans cette réflexion qui nous est rapportée par le texte de la Genèse, nous voyons un peu plus, nous voyons quel était ce raisonnement humain. Mon grand-père, qui a eu ses promesses, est mort. Les a-t-il vus s'accomplir? Non. Il n'a pas vu toutes ses promesses. Il devait être bénédiction pour toutes les familles de la terre. Il devait avoir le pays, il ne l'a pas. Le pays en possession, il ne l'aura que bien plus tard. Le peuple d'Israël ne l'aura que plus tard. Il ne l'a pas. Alors, son grand-père était mort sans avoir obtenu l'accomplissement des promesses. Son père Isaac allait bientôt mourir sans voir davantage cet accomplissement. Alors, pensait-il, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Voilà le crime d'Ésaü, car la parole est nette. Elle appelle la faute d'Ésaü un crime dans les textes originaux. Il est appelé dans l'hébreu l'impudique ou l'impur. Voilà la chair à l'œuvre. Ça, c'est la chair. La chair à l'œuvre, ce n'est pas le plat de lentilles qui prive Ésaü de son héritage. Ce n'est pas le plat de lentilles. c'est la chair. C'est la chair qui choisit le plat de lentilles et qui préfère ce plat immédiat, cette chose immédiate, cette satisfaction immédiate, préfère cela à l'œuvre de Dieu qui, elle, s'envole sur les siècles, qui, elle, est insaisissable humainement, n'est-ce pas? Mais qui pourtant est glorieuse. Alors, il n'y a pas dans la chair l'esprit. La chair n'a pas l'esprit. La chair ne peut pas faire la volonté de Dieu. Jacob, lui, homme tranquille, qui restait sous les tentes, il restait sous les tentes et il, selon une prophétie de Noé, sous les tentes de Sem, on invoquait Dieu. Alors, moralement, Jacob n'est pas très correct, loin de là, mais il cultive l'esprit. Il aspire aux richesses de Dieu, et Dieu le transformera. Et cette histoire de Jacob, qui devient, lui, l'élu de Dieu, l'autre est rejeté, il est rejeté. Et c'est Jacob, le second, qui devient le premier. Vous rappelez-vous ce que je vous ai dit l'autre jour, enfin ceux qui étaient là, n'est-ce pas? Le premier, c'est ce qui est animal, c'est ce qui est charnel. Le second, c'est ce qui est spirituel. Le premier Adam, ah, c'est l'homme charnel. Il a vendu l'œuvre de Dieu, l'humanité lui aussi, n'est-ce pas, à Satan. Il a laissé Satan triompher. Et puis, le second Adam, c'est lui qui est l'esprit vivifiant, c'est lui qui est le second. Nous avons vu que pour Saül et David aussi, c'est la même chose. Saül est le premier roi. N'est-ce pas? C'est le temps, le premier temps, le temps de la chair. N'est-ce pas? C'est l'œuvre de Dieu se fait sur cette terre en deux temps. Un premier temps qui est laissé à la chair. Et un deuxième temps qui est celui de l'esprit. Et Dieu opère ainsi parce que, je le répète, il veut, n'est-ce pas, travailler dans une humanité libre. S'il retire à lui, aux hommes leur liberté, mais alors... Ils transforment leur nature, ce ne sont plus des hommes, ce ne sont plus des créatures appelées à être semblables à Dieu, ce sont alors des automates, ce sont des animaux. L'homme se veut sorti de l'animalité, il se veut comme ça, il se voit comme ça, n'est-ce pas? Mais Dieu, lui, ne voit pas les choses ainsi. Et alors, chose extraordinaire, cette affaire qui a, en somme, opposé ces deux frères, Ésaü et Jacob, va se retrouver au cours des siècles. L'histoire du peuple d'Israël, ce sera ça. Ésaü, qui donne naissance à un peuple appelé Édom, se révolte contre Juda, Abias nous le montre. Jacob, lui, donne le lutteur pour Dieu, le lutteur avec Dieu, Israël. À l'époque du Seigneur, et à l'époque des Actes, nous avons encore deux enfants, tout comme l'étaient Ésaü et Jacob, sortant du sein de Rebecca, leur mère, deux enfants, deux peuples, sont en conflit dans le sein de la même mère, comme l'Éternel l'avait dit à Rebecca. Dans ton ventre, il y a deux peuples. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Ils vont sortir, ils vont se heurter, ils se heurtent. Cette mère se disait, « Oh, mais, véritablement, il se passe quelque chose. Je sens que les enfants dans mon sein se heurtent. » Elle avait consulté l'Éternel. Oui, deux peuples sont dans son ventre. Et l'un sera le plus petit, mais il sera au-dessus du plus grand. Deux enfants, deux peuples sont en conflit dans le sein de la même mère. Et à l'époque du Seigneur, disais-je, nous retrouvons ces deux enfants. Nous retrouvons la fraction d'Israël qui rejette le Messie. La fraction. C'est une fraction. Ça s'appelle un reste dans nos traductions. Mais ça veut dire une fraction. Reste, le mot, n'est-ce pas, ne gardez pas ce mot. Pensez à fraction. Parce que reste indiquerait, n'est-ce pas, nécessairement la plus petite partie. Ça. Mais c'est pas ça. Ce n'est pas l'idée qu'il y a dans le texte. Ça. Il faut dire fraction. Alors, il y a une fraction d'Israël qui rejette le Messie. Puis, il y a une autre fraction qui suit le Christ et à laquelle se joignent les païens. Et il ne faut pas oublier que l'Église primitive a été fondée avec des Juifs. Les 3000 du jour de la Pentecôte, qui sont-ils? Des Juifs. Et jusqu'à Corneille, on ne pensait pas aux païens encore. malgré ce que Jésus avait enseigné. On ne pensait pas aux païens, si bien que quand Pierre, n'est-ce pas, revient de chez Corneille, où là, n'est-ce pas, Corneille et sa famille et ses serviteurs ont été baptisés dans le Saint-Esprit, n'est-ce pas, alors les anciens viennent à Pierre et lui disent, mais qu'est-ce que tu as fait là? Qu'est-ce que tu as fait là? Tu es allé, toi, chez les païens? Oh, mais qu'est-ce que ça signifie? Explique-toi. Et alors Pierre s'explique, n'est-ce pas, c'est la volonté du Seigneur, elle a été manifeste. Bon, il s'explique et alors on admet, ah, alors, c'est que Dieu a donné vraiment son esprit aux païens. C'est que Dieu ouvre le royaume de Dieu aux païens. Et précisément, Pierre avait la clé du royaume de Dieu. Et chez Corneille, hop, il a ouvert la porte du royaume de Dieu aux païens. Mais nous avons ces deux fractions. C'est une même mère. Les Juifs et les disciples de Jésus étaient encore ensemble dans les synagogues. Ils étaient encore ensemble dans le temple de Jérusalem. On voit l'apôtre Paul se rendre dans les synagogues. Et tout comme le Seigneur Jésus y a porté, n'est-ce pas, l'évangile. Et là, n'est-ce pas, Paul, lui, apportait, puisqu'il était d'après la Pentecôte, il apportait l'évangile alors dans toute sa, son entier, n'est-ce pas, dans toute sa force. Alors, ils étaient ensemble dans les synagogues, dans le temple de Jérusalem. Ils étaient même, à certains moments, tous encore sous la loi de Moïse. Ça a eu, c'était la fraction incrédule, c'était les Hades, c'était les Caïphes, c'était les Sadducéens, c'était les Pharisiens. Enfin, les Pharisiens, attention, il y en a qui vont entrer dans l'Église. Enfin, attention, n'est-ce pas? Et pourtant, comme le dit Paul dans Romains 9, verset 4, l'héritage leur appartenait, tout comme l'héritage appartenait à Ésaü, l'héritage appartenait à ces gens-là qui rejetaient Christ, ils avaient l'héritage. Ils étaient bien le peuple, héritier des promesses, héritier des alliances. La nouvelle alliance est apportée à Israël, Dieu joue le jeu juste. N'est-ce pas, Jésus dira bien qu'il est venu pour les enfants de la promesse. Il est venu apporter le pain aux enfants, l'alliance. Je suis venu pour les fils d'Israël seulement. Et ce n'est qu'après lui, n'est-ce pas, que après la Pentecôte, que l'évangile et la grâce seront apportés aux païens. Par conséquent, il y avait donc une fraction incrédule, et on peut dire que le plus grand, là, déjà, est assujetti au plus petit. Le plus petit, c'est un Jacob, celui qui aspire, qui soupire, un Israël de Dieu, ceux que la foi conduit à Christ, c'est un Siméon. C'est une prophétesse Anne, ce sont les disciples, ce sont les 120, c'est l'église de Jérusalem, c'est l'église d'Antioche. Et Jacob supplantera Ésaü, prendra l'héritage de son frère. Et l'héritage des promesses, des alliances passe à l'église parce que la première fraction édomite, si je puis dire, n'est-ce pas, par incrédulité, comme le dit Paul, est retranchée de son propre olivier pour cause d'incrédulité. Elle est retranchée de son olivier. Non, nous avons le même phénomène, n'est-ce pas? La chair qui a retenu ces gens-là de croire en Jésus comme dans le Messie, et pourtant ils avaient tout ce qu'il fallait pour pouvoir le reconnaître s'ils s'étaient laissés guider par l'Esprit. Alors, au sortir du sein maternel, c'est-à-dire au sortir, si vous voulez, n'est-ce pas, de l'ancienne alliance et de tout l'appareil sacrificiel, l'appareil même religieux, n'est-ce pas, provenant de la loi de Moïse, au sortir du sein maternel, ils vont se séparer. L'église primitive va devoir se séparer des juifs de la synagogue. Et vous voyez, n'est-ce pas, à Éphèse, l'apôtre Paul est obligé de louer une école, n'est-ce pas, pour reprendre ses disciples et se mettre à part, parce qu'il trouve de l'opposition, une telle opposition dans la synagogue, qu'il ne peut pas continuer. Et puis, lorsque l'Église poursuit sa carrière, nous retrouvons les mêmes exemples. Voyez à Thyatire. Dans l'Apocalypse, l'Église de Thyatire, voyez l'Église de Sardes. Il y en a, n'est-ce pas, qui se disent juifs et qui ne le sont pas. N'est-ce pas, et ce sont des gens qui te calomnient. Des gens qui te calomnient. Il y a cette lutte. En général, aussi, nous pouvons dire qu'un Ésaü, c'est-à-dire un homme de chair, apparaît dans l'Église face à Jacob, l'homme nouveau, quand prédomine les sentiments charnels, les directions de la pensée humaine, l'orgueil, l'envie des biens terrestres, le relâchement de la sanctification, quand le monde entre dans l'Église, étant d'abord entré dans les foyers, et avant d'entrer dans les foyers, est entré dans les cœurs. Alors il commence par s'infiltrer dans les cœurs, puis il se manifeste dans les foyers, puis quand il s'est manifesté dans les foyers, il se manifeste dans l'Église. Et voilà un Ésaü qui est là. Et vous n'empêcherez pas même que dans l'Église, dans toutes les églises, à meilleur maintenant, les églises locales, il y ait apparition, comme nous l'avons vu ce matin, n'est-ce pas, d'Antichrist, il y a apparition d'un Ésaü, d'un profane, d'un impur. Tous ne sont pas des nôtres, nous a dit Jean. L'histoire de l'Église contient tant d'exemples de l'enfantement dans le même sein d'un Ésaü et d'un Jacob. Mais ces frères jumeaux se heurtent toujours. Ésaü et Jacob doivent se séparer au sortir du sein maternel. Par exemple, la réforme, les mouvements de réveil, la Pentecôte, n'est-ce pas? Ce sont des réapparitions d'un Jacob qui ne peut plus rester dans le même sein avec cet Ésaü qui est puissant et qui étouffe, il étouffe la parole de Dieu, il étouffe l'Esprit de Dieu. Alors, c'est plus possible. Il faut que la réforme vienne, il faut que les mouvements de réveil de divers âges se manifestent. La Pentecôte est une des dernières venues, la dernière venue, disons, n'est-ce pas, dans notre Occident. Ésaü a beau être le premier, il est supplanté par Jacob. Supplanté par Jacob dans l'accomplissement des desseins de Dieu. D'où, n'est-ce pas, la chrétienté de tradition et l'Église fidèle, la première persécute la seconde. Et quand nous arrivons à la fin, vous voyez, c'est toute l'histoire qui est ainsi brossée, n'est-ce pas, dans la Bible, et nous la voyons dans cet événement qui peut-être nous semble très particulier, de la naissance de deux jumeaux, Ésaü et Jacob, ou dans le fait que deux rois, des deux premiers rois, se trouvent en confrontation. Eh bien, dans le temps de la fin, deux grandes collectivités sont représentées dans l'Apocalypse par un même symbole. Un même symbole, ça, c'est quelque chose. Un même symbole, et ce symbole, c'est une femme. Une femme. Nous avons Apocalypse 17, cette femme, la prostituée, la grande prostituée, qui est vêtue de pourpre. Et puis nous avons cette femme qui, au contraire, a la lune sous ses pieds, est enveloppée du soleil et a les étoiles, 12 étoiles, sur sa tête. Eh bien, la prostituée, c'est le monstrueux Ésaü de la fin, c'est la collectivité religieuse, apostate de la fin, c'est la chair, voilà ce que la chair aura produit, tandis que l'autre, n'est-ce pas, c'est l'ensemble, cette collectivité de ceux qui sont agréables à Dieu et qui forment l'Église. Il n'y a pas de réconciliation possible entre Ésaü et Jacob. Ce qui est charnel et ce qui est terrestre doit succomber. Jacob seul héritera. Chers amis, pensons bien à ces choses, car elles ont une importance capitale. J'en reviens au roi Saül. Il nous est dit dans notre texte que l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Alors là, tout le monde est en difficulté, là, n'est-ce pas? Un mauvais esprit venant de l'Éternel, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire que ça, n'est-ce pas? Que de questions ne m'a-t-on pas posées sur ce point-là? Un mauvais esprit, en effet, n'est-ce pas, fondit aussitôt sur le roi Saül, et ce mauvais esprit, le texte regardé dans le texte original, n'est-ce pas, examiné, quand examiné, hein, il veut bien dire un mauvais esprit envoyé de l'Éternel, venant de l'Éternel. Alors, comment pouvons-nous nous expliquer cela? Eh bien, d'abord, n'est-ce pas, ne jugeons pas, je le répète toujours, selon nos propres pensées. Nous avons, nous, des données, qui sont souvent, d'ailleurs, très mauvaises, et puis, elles sont insuffisantes, très insuffisantes. Alors, avec ces données-là, nous voulons juger un grand problème comme celui qui est évoqué ici. Cela n'est pas possible. Rappelons-nous ceci, c'est que dans le livre de Job, nous avons quelque chose de tout à fait analogue au début du livre de Job. Je vais lire, par exemple, au chapitre 1, verset 9. Chapitre 1, verset 9. L'Éternel dit à Satan. Vous savez comment, là, n'est-ce pas, nous voyons que Satan se trouve en présence de l'Éternel. L'Éternel dit à Satan. As-tu remarqué, mon serviteur, Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Voyez-vous, Satan, comment il est, n'est-ce pas, ce qu'il dit, ce qu'il pense, même en présence de Dieu. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira. Et dans le chapitre 2, nous avons aussi, au verset 3, ceci. L'Éternel dit à Satan, une seconde comparution de Satan devant l'Éternel. As-tu remarqué, mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal, il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Voyez, là encore, Dieu dit à Satan, voici, je te le livre, mais tu n'iras pas jusqu'à le faire mourir. Pourtant, la provocation de Satan est catégorique. Étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Et l'Éternel n'a pas peur de ce défi de Satan. Je suis sûr qu'il te maudit en face. Et nous pouvons, n'est-ce pas, bien savoir que l'Éternel aimait Job comme il aime les âmes qu'il a créées, et d'autant plus que c'était une âme déjà, n'est-ce pas, qu'on pourrait appeler, si vous voulez, d'élite, n'est-ce pas, humainement parlant, une âme d'élite, n'est-ce pas, il y avait déjà un certain ordre dans sa manière de vivre qui plaisait à Dieu, un ordre. Évidemment, ça n'assurait pas son salut, c'est d'accord, mais il y avait un certain ordre, vous savez. Même parmi les païens, Dieu ne méprise pas du tout celui qui vit, qui donne un certain ordre à sa vie, n'est-ce pas? C'est pas ça qui le sauve, c'est d'accord? Mais n'allons pas jusqu'à dire, comme je l'ai entendu quelquefois dire, n'est-ce pas, que il vaut mieux que quelqu'un soit livré carrément au péché. C'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Ça ne sauve pas la morale que l'on peut se donner et la manière de vie que l'on peut avoir adopté par une certaine force de volonté, cela ne sauve pas, c'est d'accord. Mais attention, Dieu quand même préfère cela, n'est-ce pas? Et alors, là, je te le livre, je te le donne. Dieu n'a pas peur de ce défi, n'est-ce pas? Et il va même jusqu'à livrer Job à l'action de Satan. Alors, Que se passe-t-il? Eh bien, tout simplement ceci, c'est que Dieu ne s'oppose pas à l'ennemi par une exclusivité autoritaire, mais il veut que la force de son esprit, librement reçue et gardée, soit la sauvegarde de ses créatures. Il a permis que Satan entre dans le jardin d'Éden. Et là, c'était une création toute fraîche, toute neuve. Il y avait là une créature belle, faite à l'image de Dieu. Eh bien, Dieu a permis, et il le fallait pour le bien, chers amis. Dieu n'envoie pas Satan ou n'envoie pas un mauvais esprit pour le mal, mais pour le bien. L'histoire de Job, n'est-ce pas, nous la connaissons, nous connaissons sa conclusion, et nous savons bien que Job n'était pas sauvé, malgré cette droiture qui lui est reconnue, il n'était pas sauvé. Et la preuve, c'est que dans son cœur, il y avait des pensées qui étaient contraires à celles de l'esprit, malgré sa droiture. Ah, c'est ça! Il y avait encore de mauvais ferments dans son cœur, qui étaient comme tenus à l'arrêt, n'est-ce pas? Parce que Job avait une crainte de l'Éternel, mais ils étaient là, et quand la maladie alors le ravagera son corps, n'est-ce pas, et qu'il souffrira, qu'il aura perdu sa famille, ses enfants et ses biens, alors Job, n'est-ce pas, va montrer sa révolte devant l'Éternel. Et il va plaider sa justice, et il va presque dire à l'Éternel, « Mais tu n'es pas juste pour moi. » Si vous avez lu le livre de Job, vous avez vu cela, n'est-ce pas? Il taxe l'Éternel Dieu d'injustice à son égard. Mais Dieu ne se formalise pas, il sait quel est ce combat qui se livre, n'est-ce pas? Il lui envoie tel messager qui convient après. Et Job va s'humilier, n'est-ce pas? J'ai parlé comme un insensé, dira-t-il, n'est-ce pas? Quand il aura été convaincu de péché dans son cœur, j'ai parlé comme un insensé, et maintenant je vois l'Éternel, maintenant je réalise ce qu'est l'Éternel Dieu. À ce moment-là, il est rétabli et Job est sauvé. Et puis, nous avons dans l'Écriture d'autres documents auxquels nous pouvons nous référer en la circonstance, notamment ce récit qui nous est fait de démons que Jésus chasse dans la Décapole, dans un homme qui était agité par des démons et qui habitait dans les sépulcres. Il chasse ces démons, et alors une fois que les démons sont là, n'est-ce pas, ils viennent implorer Jésus, et puis ils disent à Jésus, « Ordonne que nous allions dans ces pourceaux. » Là, il y avait un troupeau de pourceaux sur les pentes du lac. « Ordonne que nous allions dans ces pourceaux. » Et Jésus leur dit, « Allez-y, n'est-ce pas ?» Et ils y vont, aussitôt les pourceaux se précipitent dans la mer. Mais pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il s'agissait de ce côté-là, n'est-ce pas, de Dan et de la demi-tribu de Manassé. Il s'agissait de gens issus d'Abraham, formant, issus de Jacob, formant le peuple de Dieu, et qui étaient dans la désobéissance manifeste pour faire un bon commerce avec leurs voisins. Ils élevaient des animaux impurs, des pourceaux, étant dans cette situation. Jésus ne peut pas refuser, aux démons de faire de cela leur partie. Il ne peut pas leur refuser. De même que Dieu, n'est-ce pas, pour respecter, si je puis dire, la règle du jeu, plutôt pour respecter les principes qu'il s'est donné pour sauver l'homme dans la liberté, créature libre, n'est-ce pas, laissera à Satan et aux démons la liberté d'action jusqu'à une certaine limite, bien entendu, mais la liberté d'action sur ceux qui lui désobéissent, qui repoussent son esprit, n'est-ce pas, et qui ne volent pas de son amour. Alors ceux-là, il les laisse en proie aux démons. Nous avons aussi dans 1 Corinthiens 5, un certain mot de l'apôtre Paul, qui nous dit qu'un homme qui vivait dans le péché jour après jour, puisque il vivait avec la femme de son père, ce qui était un inceste, il vivait dans l'inceste jour après jour et il n'y avait rien qui pouvait le déloger de cela. Il y restait, il y était, n'est-ce pas, rien à faire. Les conseils, les exhortations n'avaient plus de prise sur lui. Et l'apôtre Paul nous dit, eh bien, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. C'est dans le même esprit, chers amis. C'est la même chose, n'est-ce pas, qu'il soit livré à Satan. Puisque, n'est-ce pas, il ne veut pas l'obéissance, puisqu'il ne veut pas la grâce de Dieu, puisqu'il ne veut pas entendre la parole de Dieu, eh bien, alors, qu'il soit carrément dans le clan de Satan, et que Satan le ravage. Quand Satan l'aura bien ravagé, comme Satan a ravagé Job, n'est-ce pas, eh bien, à ce moment-là, peut-être fera-t-il comme Job, criera-t-il à l'Éternel, n'est-ce pas, et son esprit pourra être sauvé pour le jour du Seigneur. Voilà, n'est-ce pas, des éléments qui nous permettent de comprendre ce qui nous est dit ici. Et je répète que Dieu ne s'oppose pas à l'ennemi par une exclusivité autoritaire, mais seulement par la force de son esprit, lorsque son esprit est librement reçu et gardé. Si la force de l'esprit de Dieu est méprisée, si la parole de Dieu est rejetée, alors Dieu retire son esprit, la chair se retrouve toute seule avec ses ardeurs méchantes, et Dieu ne s'oppose plus à ce que les mauvais esprits reviennent. Nous avons encore une parabole du Seigneur qui nous le dit, c'est la parabole de Matthieu 12, quand un homme a été débarrassé, n'est-ce pas, son cœur a été débarrassé des mauvaises choses, son cœur a été purifié, alors il est semblable à une maison qui a été balayée, ornée, n'est-ce pas, et puis l'esprit impur qui était là, il a été chassé. Bon, mais alors, voici que quelque temps après, cet esprit impur qui est parti, en découvre sept plus méchants que lui encore, et puis alors il se dit, eh bien, nous allons revenir dans la maison où j'étais avant et que j'ai dû abandonner. Nous allons revenir dans cette maison. Et il revient, accompagné des sept esprits plus méchants que lui, dans cette maison. Et Christ de conclure, la condition de cet homme, la condition de l'homme qui ressemble, dont le cœur ressemble à cette maison, eh bien, la condition de cet homme est pire que la première fois. Et ça, nous l'avons dans d'autres parties de l'Évangile aussi, n'est-ce pas? Lorsque quelqu'un qui a eu la lumière réaccepte les ténèbres, eh bien, combien sont profondes ces ténèbres, plus profondes, si l'on peut dire qu'elles ne l'étaient avant. Chers amis, bien sûr, il faut être très prudent pour retirer des leçons et surtout des adaptations à nos situations de ces textes, n'est-ce pas, et de ces informations. Seulement, disons ceci, c'est que Dieu, n'est-ce pas, respecte la règle qu'il s'est donnée, et cette règle est bonne. Ses pensées ne sont pas nos pensées, et par conséquent, quand il y a désobéissance, quand on rejette sa parole délibérément, n'est-ce pas, eh bien Dieu, non seulement son esprit peut être attristé, mais son esprit peut se retirer. La preuve, c'est qu'à Thyatire, il y a des chrétiens qui n'ont même plus le Seigneur en eux. Jésus est à la porte. Alors, pensons bien à ceci, n'est-ce pas, c'est que Dieu nous peut laisser, n'est-ce pas, ceux qui méprisent sa parole, ceux qui ne veulent pas, par la foi et selon l'amour, obéir à sa parole. Je ne parle pas des accidents, mais je parle d'une façon, n'est-ce pas, on peut dire délibérée, n'est-ce pas, ceux qui ne veulent pas obéir à la parole de Dieu, eh bien, le Seigneur les laisse, et leur condition peut être pire que la première. C'est ce que nous voyons dans certains textes, c'est ce que nous voyons dans l'expérience aussi, n'est-ce pas, des hommes dont la condition est pire que la première, parce que ils ont méprisé la parole de Dieu. Saül était-il possédé? La question a été posée, et nous pouvons dire que le mauvais esprit Selon les textes, le texte que nous avons là, et selon un autre texte un peu plus loin, le mauvais esprit qui venait l'agitait. Et non seulement il agitait, mais il y a ceci, c'est que Saül ressentait des manifestations physiques. Vous voyez, il est dit ceci, « Lorsque l'Esprit de Dieu était avec Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main, Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. » Donc, quand l'Esprit était là, il était oppressé. Il y avait donc, n'est-ce pas, un malaise physique qui se produisait en lui. Par conséquent, nous pouvons dire, n'est-ce pas, qu'il y a là une possession. Il y a là les caractères d'une possession. David est envoyé, donc, vers Saül par son père Isaïe. D'abord, tout d'abord, Saül le prend en affection. David lui plaît. Il lui donne une charge qui va l'attacher à sa personne, la charge d'écuyer, porter ses armes. Et pourtant, la jalousie ne tardera pas à dévorer le cœur du roi Saül. Mais au début, ça, le jeune homme lui plaît. David était musicien. Comment avait-il appris la musique? Il avait appris cela en grandissant sous la voûte des cieux. Dieu lui avait donné ce don pour accompagner plus tard la puissance prophétique qu'il lui réservait, car David va recevoir une puissance magnifique, puissance prophétique magnifique, le chant agréable à Dieu. Et sa musique avait déjà une vertu sainte et apaisante, comme l'aura plus tard sa prière et ses psaumes, une vertu apaisante sur le roi Saül. Mais bien entendu, ce n'était pas la musique seule. Quand David jouait de la harpe, évidemment, la musique pouvait impressionner le psychisme de Saül et lui causer des émotions agréables, certes, mais il y avait en même temps une sorte de dégagement de l'esprit. Un dégagement de l'esprit de Dieu. Et, chers amis, je pense à notre musique aujourd'hui. Je vais encore être un peu dur, être un peu méchant. Je pense à notre musique. Nous allons chercher les accents où? Les rythmes où? Et notre musique est-elle propre à dégager, elle, l'esprit, à permettre aux effluves de l'esprit de se manifester autour de nous? Je ne le crois pas, chers amis. Je crois plutôt que souvent, c'est une musique qui appellerait d'autres esprits que l'Esprit de Dieu. Oh, chers amis, il y a là un problème terrible, un problème qui devrait nous trouver, nous, chrétiens, nous, enfants de Dieu, nous, Église de Jésus-Christ, dans la sagesse. Comment nous allons chercher ces rythmes qui excitent la chair? C'est avec ça que nous voulons faire l'œuvre de Dieu. Mais demandons au ciel, vous croyez que le ciel n'a pas une belle musique? Vous croyez que le ciel n'a pas d'harmonie? Vous croyez que les symphonies célestes ne sont pas les meilleures? Mais faites appel à la musique des cieux, demandez-lui de descendre dans nos cœurs, et par la musique, oui, alors l'Esprit de Dieu pourra se manifester. La musique, en somme, a des ailes sur lesquelles il plaît à l'Esprit de Dieu de se manifester en une vertu apaisante. Ah, chers amis, moi je vous assure que je le dis, je suis révolté d'entendre une musique de jazz dans l'église. C'est insupportable cela. Et je le déclare devant le Seigneur, ce n'est pas d'inspiration divine. C'est par le rythme? Non. Je dis que le rythme active la chair. C'est tout ce qu'il fait. L'harmonie. L'harmonie a ses lois. Vous croyez que quand les anges sont venus dans les plaines de Bethléem, hein, vous croyez qu'ils sont venus avec du jazz et qu'ils sont venus, n'est-ce pas, chanter quelque chose de rythmé qui enflamme la chair? Ils sont venus apporter les célestes harmonies, les douceurs du ciel, exprimer l'amour dans ce qu'il a de constructif, dans ce qu'il a dans la puissance qu'il a pour gagner les créatures et les amener vers l'Esprit de Dieu. L'amour de Dieu amène, le chant de l'amour de Dieu amène vers l'Esprit de Dieu et non pas éloigne. Ah, chers amis, vous savez, aujourd'hui, je pense que le temps est passé de mâcher ces mots. Hein. Il faut dire ce qui est de la vérité. Et l'expérience montre bien que ce n'est pas avec ces musiques scandées, ces musiques de jazz, qu'on attire la jeunesse. Ce n'est pas vrai. J'ai fait l'expérience parmi les jeunesses chrétiennes et j'ai posé des questions. J'ai écouté ce qu'ils disaient. Et j'ai vu que chez ceux qui étaient vraiment spirituels, c'était la parole de Dieu, c'était l'Esprit de Dieu qui les intéressait. Quant à cette musique de jazz, il la supportait, c'était tout. Enfin, tel n'est pas mon sujet, mais disons que la musique de David était une musique qui lui avait été inspirée pour se joindre à ces chants qu'il va pouvoir composer, ces psaumes qu'il va composer sous la direction de l'Esprit de Dieu. Et sa musique était là, n'est-ce pas, ce que l'Esprit de Dieu empruntait pour apporter au dehors l'apaisement. Il y a un écrivain très connu, allemand, Goethe, qui dans un ouvrage, Poésie et Vérité, a écrit ceci. « S'il est sur ton psautier, père de l'amour, un ton à son oreille perceptible, alors réjouis mon cœur. » Vous voyez, n'est-ce pas, que cet écrivain avait une toute autre conception que nous pouvons en avoir de la musique qui peut être associée aux paroles de l'Éternel et qui peut faire du bien au cœur. Amen.